C'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, une fois n'est pas coutume. Plus de 2 milliards de chrétiens se rassemblent dans cette période de l'année pour fêter, pour célébrer la naissance de Jésus, par des chants, des cadeaux, bien emballés, des repas. Et cette journée de dimanche dernier que nous avons passée a été pour nous, pour notre Église, un moment vraiment béni, vraiment riche en tout. Et je suis vraiment reconnaissant de ce qui s'est passé dimanche dernier. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue le véritable message de cette fête. Au-delà donc de la fièvre culturelle, nous devons persévérer dans la voie de la liberté en demeurant constants dans la parole révélée de Dieu. Jésus dit en Jean 8, 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc la parole est au cœur de ce prologue de Jean ce matin, et sera le sujet de la prédication. Les évangiles annoncent la bonne nouvelle de la venue du Sauveur parmi les hommes. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu, et Luc également annonce cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, à Bethléem, en Judée. Il est venu en petit enfant, humblement, dans une mangeoire. Et nous en souvenons chaque année en lisant donc cette histoire pendant cette période. L'apôtre Jean, le quatrième évangéliste, va au-delà de l'histoire et situe son récit à la lumière de l'éternité. Jean, donc, en complément des trois autres évangiles, situe le Messie davantage sur le plan théologique qu'historique. Jean, il répond à la question « Pourquoi de la venue de Christ ?» plutôt que de « Où ?» ou de « Comment ?» En écrivant donc son évangile, son intention était d'affermir les chrétiens dans leur foi en Jésus face à des déviations déjà existantes dans la première église du premier siècle. Donc. Dans son introduction, Jean désigne d'emblée Jésus comme le Logos, la parole. La parole était tournée vers Dieu. La parole était Dieu. Et plus loin, il dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jean fait donc à la fois un parallélisme et une équivalence entre la parole et Dieu, entre Logos et Théos. Donc, on va, en essayant ce matin de rester dans cet esprit théologique de l'apôtre, sans toutefois être trop académique, on va essayer de voir trois aspects donc, de cette parole faite chair qui habitait parmi nous, décrite par l'apôtre. Tout d'abord, la parole est éternelle. Ensuite, la parole est rédemptrice. Et la parole est glorieuse. Donc, voyons voir tout d'abord, la parole est éternelle. L'auteur, Jean, fils de Zébédée, un juif, membre du cercle les plus intimes de Jésus. Il a écrit son évangile vers la fin du premier siècle, environ une cinquantaine d'années après la crucifixion et la résurrection du Christ. Jérusalem était détruite par les Romains une vingtaine d'années auparavant. Les Juifs ainsi que les chrétiens étaient donc chassés de Judée et dispersés dans le monde romain. Et les églises naissantes, fondées principalement par Paul et par quelques missionnaires, étaient composées donc de Juifs et de Grecs d'origine païenne. Donc Jean adresse son évangile à cette église du 1er siècle, probablement à Éphèse et probablement au-delà. Et pour exprimer sa pensée, Jean utilise des termes à la fois simples et profonds qui ont le pouvoir de toucher les deux communautés auxquelles il s'adresse. Un théologien américain a dit à propos de l'évangile de Jean qu'il est comme une mare d'eau où un enfant pourrait librement y patauger et où un éléphant pourrait trouver assez d'eau pour s'y baigner. Donc compréhensible pour un enfant qui sait lire, et pourtant de nombreux théologiens se sont butés. Pour ceux d'entre nous qui ont étudié le grec, peut-être pas nombreux, mais Jean est le premier livre qu'on traduit. Car il a des mots simples, des tournures tout à fait simples, accessibles à tous. Jean donc raconte avec ces mots le message de Noël. Les personnages de la crèche sont remplacés par des mots qui sont chargés de sens. L'enfant dans l'étable est la parole faite chair. Jean introduit donc son message par « Au commencement était la parole », en grec le « logos ». Ce terme avait donc une signification autant pour les Juifs que pour les Grecs, mais de manière différente. Jean dessine par ces mots au point de départ du ministère de Jésus. Pour les auditeurs juifs de l'Église, cette phrase fait écho à la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et plus loin, dans les versets du chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue des eaux, etc. Dieu dit, le premier chapitre de la Genèse nous dit que Dieu dit et les choses ont existé. Il a créé donc en 6 jours cet univers, espace-temps dans lequel nous vivons. La parole donc fut prononcée au moment de la création, exprimée par la bouche des prophètes dans la loi, et est maintenant identifiée au Logos par Jean pour un auditoire juif. Alors que pour nous, la parole, selon le petit Robert, est l'expression verbale de la pensée humaine. Pour les Juifs, la parole voulait dire beaucoup plus. Elle dévoile la pensée de Dieu. En hébreu, chaque lettre de l'alphabet a un sens bien précis. Et la combinaison de plusieurs lettres de l'alphabet pour former un mot donne à ce mot un sens vraiment théologique. Nous avons lu la semaine dernière avec Benjamin, je crois que Ésaïe 55, verset 11, où il nous a dit que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux également s'adresse à un auditoire juif et il dit que la parole est vivante, efficace, en hébreu 4. Les Juifs étaient donc sensibles à cet argument de l'apôtre. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cependant, pour certains commentateurs, on ne peut pas comprendre le sens de ce mot, la parole logos, décrit par Jean qu'à la lumière de l'usage grec de ce terme. Terme qui, tout en véhiculant donc une pensée juive de la parole de Dieu, est à mettre en parallèle avec la pensée philosophique répandue dans le monde gréco-romain. Les philosophes grecs ont d'ailleurs influencé notre culture occidentale, et notamment le christianisme, jusqu'à aujourd'hui. 600 ans avant Jésus-Christ, ça ne date pas d'hier, je ne pense pas qu'on était né à ce moment-là, un philosophe grec du nom de Héraclite définit le principe du logos. Il dit qu'il est impossible de plonger dans la même rivière 2 fois. Il veut dire par là que la vie est comme une rivière, un flux. Si vous plongez dans une rivière 1 fois, au moment où vous voulez y replonger 2 fois, l'eau a coulé et la rivière n'est plus la même. Les philosophes se sont demandé pourquoi, à cause de ce flux, donc, à cause de ce changement permanent, les choses qui existent ne sont pas en chaos perpétuel. Et leur réponse était que le changement permanent n'était pas dû au hasard, mais il était ordonné. Il y avait donc une raison divine à cet ordre, un principe qui contrôle la matière et l'esprit des hommes. Ils ont appelé ce principe le logos. Et quand Jean écrit son évangile, donc 700 ans après Héraclite, le principe du logos a perduré chez les autres philosophes, comme Platon, Socrate, les stoïques, surtout les stoïques, Philon. Plus tard, donc, cette idée du logos a été discutée parmi les gens ordinaires. Les Grecs étaient donc familiers avec cette idée. Ainsi, Jean a saisi le sens de ce mot logos en disant « Écoutez, Grecs, ce que vos philosophes ont discuté, pendant des siècles, ce logos de Dieu, cette force impersonnelle contrôlant l'univers et la pensée humaine, ce logos est maintenant venu sur terre en tant qu'homme dans la personne du Christ. » Jean utilise donc habilement ce terme logos dans un sens théologique qui va au-delà de la pensée juive et de la pensée grecque. Il poursuit donc son évangile avec ce premier verset en disant que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous avons ici une allusion encore théologique à la Trinité. La parole était littéralement face à face avec Dieu. Le grec, c'est proston theon. Pros, ça veut dire face à face, plus qu'une idée d'accompagnement, c'est une idée de face à face. Distinct du Père, mais on a une intime communion avec le Père de toute éternité. La parole était Dieu, trois personnes dans la Trinité, mais un seul Dieu. La parole possédait tous les attributs de Dieu. Le Messie Jésus était Dieu, en même temps que pendant son ministère sur la terre, même s'il se dépouillait à lui-même, il ne cessa jamais d'être Dieu. Il prit sur lui la nature humaine, un corps matériel. Paul nous dit en Colossiens 2, verset 9, « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous avez peut-être reçu chez vous la visite de deux personnes qui viennent sonner à votre porte et qu'ils vous ont dit qu'ils sont venus vous parler de Jésus. Et vous leur avez certainement dit, mais moi aussi je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Mais c'est là qu'ils vous ont certainement dit que Jésus, bien que possédant certaines qualités divines, n'est pas Dieu, mais un petit Dieu, un prophète. Et vous leur avez dit certainement qu'en Jean 1, il est écrit la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Et certainement, ils vous ont dit que dans le grec, il n'en est pas ainsi. Théos n'a pas d'article défini. Donc, il n'est pas Dieu avec un grand D, mais un petit D. Et c'est là que vous leur avez dit, attendez, je vais aller chercher mon Nouveau Testament grec dans ma bibliothèque. Peut-être que vous n'avez pas. Mais en passant, vous pouvez peut-être aussi leur dire que le terme Jéhovah n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. En tout cas, pas dans la mienne, ni pas dans l'Ancien Testament en hébreu que je lis, ou pas non plus dans le Nouveau Testament en grec. C'est un terme qui a été inventé par un moine catholique au XVe siècle, qui a voulu probablement occidentaliser le nom de Dieu qui apparaît dans l'Ancien Testament, YHWH, qu'on prononce Yahweh, mais c'est un nom imprononçable. C'est une combinaison, en fait, du nom, du verbe être, au passé, au présent et au futur. D'ailleurs, notre Bible, en français, traduit justement ce terme par l'éternel. Il est celui qui est de toute éternité. Nous avons une très bonne traduction. Vous pouvez également peut-être aussi leur demander pourquoi, au verset 6, au verset 12, au verset 18 du prologue de Jean, et plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, où le terme théos, Dieu, donc, apparaît sans l'article défini, et eux-mêmes, ces témoins de Jéhovah, ils traduisent par le Dieu avec un grand D. Et juste dans cette traduction de Jean 1:1, ils traduisent faussement par avec un petit D, probablement pour soutenir leur hérésie. Donc, même qu'ils utilisent faussement le nom de Dieu, ils modifient également les Écritures. Il y a une règle en grec, grammaticale, je ne vais pas vous faire un cours de grec ce matin, mais si vous voulez, je peux en parler par la suite. Aujourd'hui, nous sommes héritiers de 20 siècles de témoignages judéo-chrétiens, mais aussi des philosophies qui ont façonné notre monde, qui nous environne, et qui ont leur origine dans les philosophies grecques. Quelle est ce matin notre conception de Dieu ? Quelque part, nous sommes ici tous ce matin des théologiens. Théos, voulant dire Dieu, et logie, logos, science. Nous avons tous ici ce matin réfléchi sur Dieu, sur la personne de Christ, sur le sens de la vie, de la mort, de la souffrance, du salut, etc. Il est probable que nous ayons eu des réflexions, nous avons des réflexions un peu diverses. Mais ce qui importe, c'est que nos réflexions soient basées, soient fondées sur la parole de Dieu. Nous avons vu les erreurs des sectes comme les témoins de Jéhovah ou les mormons qui se disent chrétiennes, mais nous-mêmes également, nous pouvons avoir une conception de Dieu qui est fondée davantage sur nos expériences ou sur l'émotion ou même sur la raison. Une étude récente aux États-Unis montré qu'il y a une déviation croissante de la conception biblique de la personne de Christ et il s'en inquiète. Donc, Jean nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voyons maintenant le second point. La parole est rédemptrice. Elle génère une nouvelle naissance. Au verset 3 à 6, tout nous dit que tout a été fait par elle. Elle était la véritable lumière qui luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jésus était donc venu pour recréer ce qui avait été détruit par le péché. Mais les hommes ont préféré vivre dans les ténèbres. Ils ont préféré suivre leur propre voie. Paul écrit en 2 Corinthiens 4, verset 3, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » C'est peut-être ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, dans cette période de Noël, alors que tout le monde entonne des hymnes de louange. Les rues des villes sont illuminées, les maisons, les sapins. Pourtant, le message est aveuglé par la fièvre de la consommation, probablement, par le matérialisme, par le Dieu de ce monde qui semble en apparence avoir adopté le message de Noël, mais en a occulté le véritable sens. Et Jean nous dit qu'au verset 11, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, mais ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Jean va développer ce message au plus loin, au chapitre 3, alors que Nicodème, un des chefs des Juifs, était venu le trouver en pleine nuit pour s'informer de la personne de Jésus. Jésus lui dira, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il vint chez les siens en Israël, chez qui les prophètes avaient annoncé la venue. Mais ils ne l'ont pas reçu, comme la majorité des hommes aujourd'hui dans notre pays. Recevoir la parole et y croire, ce n'est pas un acte intellectuel ou émotionnel, ni une adhésion à une église ou à un groupe, mais cela implique un changement radical dans nos actes et dans nos pensées. Une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Donc. Ce changement n'est possible qu'en recevant la parole et en y croyant. La nouvelle naissance, d'ailleurs, vient de Dieu, non de nos propres efforts. Nous en serions incapables. De même que nous avons contribué en rien à notre naissance physique, nous n'avons pas demandé à nos parents de naître. De même, nos efforts ne contribuent en rien à notre naissance spirituelle. Nous devons recevoir la parole et Dieu fait son œuvre en nous pour nous transformer en une vie nouvelle. Alors donc, après avoir décrit la parole éternelle, la parole rédemptrice, Jean décrit maintenant ce qui est probablement au cœur de son message. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de thèmes développés dans ce prologue de 18 versets. Mais à mon sens, le verset 14, c'est le verset clé. La parole s'est faite chair, habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Jean rend ici d'abord un témoignage personnel. Il a été parmi ceux qui ont côtoyé Jésus de plus près. Jean avait vu sa gloire alors qu'il était sur la montagne en compagnie de Pierre et de Jacques, où il fut transfiguré. Nous avons ce récit en Matthieu 17. Jean également a vu les miracles accomplis par Jésus. L'eau transformée en vin, la multiplication des pains, et surtout la résurrection de Lazare. Et d'autres signes encore. Comme nous, Jésus était né d'une femme, bien que conçue miraculeusement. Comme nous, il a eu une enfance. Il a vécu comme un juif à son époque. Il mangeait, il buvait, il était fatigué, il sentait la douleur, etc. Cependant, pendant tout ce temps-là, il était à la fois Dieu et homme. La parole devenant chair est pour nous un modèle, un exemple pour notre vie de tous les jours. S'il avait marché parmi nous en tant qu'ange ou esprit, nous n'aurions pas pu le copier. Mais il a demeuré parmi nous en tant qu'homme. Nous avons un véritable standard de notre marche. C'est-à-dire, c'est de marcher comme lui, il a marché. 1 Jean, chapitre 2, verset 6, 1 Jean 2, 6, nous dit, Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui et aussi à marcher. Il est le modèle parfait, car il est Dieu. Il est aussi le modèle qui concorde avec nos besoins. Enfin, la parole devenue chair, nous devons regarder nos corps mortels dans une véritable dignité et ne pas les souiller par les péchés. Même si nos corps sont faibles ou infâmes, c'est le corps que l'Éternel, Fils de Dieu, n'avait pas honte d'incarner et d'emporter dans les cieux. Ce simple fait est un gage qu'il ressuscitera également nos corps le dernier jour et les glorifiera dans son propre corps. Dans le jardin d'Éden, Dieu communiquait librement avec Adam et Ève. Mais le péché vint et non seulement l'homme fut chassé du jardin, mais les relations entre l'homme et Dieu cessèrent. Et un grand fossé est apparu entre l'homme et Dieu, un Dieu infiniment pur. Et si ce n'était pas l'infinie miséricorde de la grâce de Dieu, nous aurions été éternellement bénis, bannis de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans son immense amour, a pris l'initiative d'établir un pont, de demeurer au milieu des hommes. C'est ainsi qu'il demeura parmi son peuple qu'il avait choisi, Israël, dans le désert. Il demeurait au centre de leur camp, un camp d'un million de personnes. Il était là au milieu, dans une tente faite avec des rideaux de peau de brebis, le tabernacle. Celui-ci était construit de bois précieux, d'or pur, de tapisseries, de toutes couleurs. Le peuple d'Israël ne pouvait pas voir Dieu, mais il vit la nuée qui restait au-dessus du Saint des Saints. Moïse lui-même ne pouvant rentrer dans la tente parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'est ce que nous dit Exode 40. Mais quel rapport entre le tabernacle et la parole de cette chair? Quand Jean nous dit que la parole a habité parmi nous, il emploie le verbe grec skineo. Skineo veut dire planter sa tente. Et littéralement, dans le contexte, veut dire tabernacler. Ce verbe renvoie donc directement à l'Ancien Testament, où Dieu rencontre le peuple d'Israël avant la construction du temple. Jean nous dit que la parole est faite chair, elle a tabernaclé parmi nous. Quand la parole devint chair, la glorieuse présence de la divinité incarnée en elle, pleine de grâce et de vérité. Et Jean se référait donc à cette présence glorieuse de Dieu dans le tabernacle en Exode 33. Mais le tabernacle n'était que l'ombre de ce qui était à venir. Dans le désert, Dieu habitait dans une demeure qui était faite par les hommes. Par son incarnation, Dieu habite dans le corps d'un homme. La gloire de Dieu présente dans le tabernacle, la Shekinah de Dieu en hébreu, Shekinah qui veut dire la présence visible de Dieu. Cette Shekinah était visible aux yeux d'Israël. Par l'incarnation de la parole, cette présence glorieuse est présente aujourd'hui. Elle nous est révélée par le Saint-Esprit et par laquelle nous pouvons connaître Dieu, voir sa gloire et être adoptés dans la famille en devenant des enfants de Dieu, pardonnés, lavés de tous nos péchés par le sang versé à la croix. Jean nous dit donc vers la fin, au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. » Jean établit donc un contraste entre la loi et la grâce. La loi donnée à Moïse ne fut pas une démonstration de la grâce de Dieu, mais une exigence de sainteté. Dieu l'a conçue dans le seul but de montrer aux hommes leur injustice, afin qu'ils ressentent le besoin d'un sauveur. Celui-ci est devenu chair et a habité parmi nous. Dieu Immanuel, la vérité pleine et entière en direction de laquelle pointait la loi, est venu dans la personne de Christ. Donc, au-delà du carnaval commercial de Noël, la parole s'est faite chair, habitée parmi nous, est le véritable message que nous devons célébrer dans nos communautés et, comme Jean-Baptiste, témoigner là où Dieu nous a placés. Et Jean conclut par ces mots, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus est celui qui nous fait connaître le Père. Il est la lumière du monde. Il est, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la vie. Quand Dieu créa l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Nous avons ça en Genèse 2, verset 7. Par le péché, la mort entra dans le monde, la mort spirituelle. Par son incarnation, sa mort à la croix, sa résurrection, Jésus nous redonne ce souffle de vie en nous lavant de nos souillures et de nos péchés. Paul nous dit en Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez d'autrefois. » Et au verset 4, il nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Avons-nous donc reçu cette parole éternelle, faite chair ce matin? Avons-nous contemplé sa gloire? Jean-Baptiste a vu cette gloire et a témoigné publiquement. Telle devrait être également notre attitude si nous avons reçu, si nous y avons cru. Si vous êtes ici ce matin et que vous ne l'avez pas encore reçu, il n'est pas trop tard pour venir à la lumière et recevoir la plénitude de sa grâce et la paix profonde par le pardon des péchés et la réconciliation avec le Créateur. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, que Dieu vous bénisse, priant.